Vous écoutez Radio Okapi, il est 12h à Yakoma, dans le Grand Équateur, une heure de plus à Pandroma, en Ituri, le journal.
Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma à la une. Hausse de prix du litre de carburant en Mbujimayi. Il passe de 4000 francs à 5000 francs congolais. Situation consécutive à la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire le stock s'est vide et la demande augmente, explique la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kasaï Oriental. Les festivités de fin d'année approchent, mais souvent caractérisées par l'insécurité dans certains coins du pays. C'est le cas en Ituri et la police ville de Bunia rassure que des dispositions sont déjà prises pour permettre aux habitants de passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Et puis, vous le savez, l'anglais fait désormais partie des épreuves orales de l'examen d'État dès l'année 2026. Plusieurs personnalités donnent leurs avis quant à ceux. Et ce midi, nous recevons Saïdi Guigui Masomo. Il est enseignant des langues au département de français, langue africaine de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kindu. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Kasaï oriental avec la hausse du prix de litre de carburant dans la ville de Mbujimayi. Le litre d'essence qui s'est vendu à 4000 francs il y a une semaine se négocie actuellement à 5000 voire 5500 francs congolais. La Fédération des entreprises du Congo FEC Kasaï oriental évoque la loi de l'offre et de la demande. Explication avec Esther Ndalafina.
Le litre d'essence se négocie entre 5000 et 5500 francs congolais. Pourtant, ce même litre s'est vendu il y a une semaine à 4000 francs congolais. Un Kadhafi contacté affirme que le fil de carburant de 200 litres qui coûtait 400 dollars est actuellement vendu à 600 dollars.
Les voies d'approvisionnement actuellement sont en état de délabrement très avancé, ce qui fait que les prix ont augmenté. Il y a des spéculations. Certaines personnes fixent soit à 6000, soit à 6500, alors que anciennement, nous vendions à 4000. Il y a carence pour le moment.
Un motocycliste affirme que cette hausse les met en conflit avec leurs clients.
Les litres, ça coûte 5500. L'autre met 6000 francs. Les clients disent vous nous transportez seulement à 1000 francs. Maintenant, ça nous dérange beaucoup. Ça perturbe notre travail.
Willa Bukasa, premier vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Kasaï Oriental, évoque quant à lui la loi de l'offre et de la demande.
La situation que nous connaissons actuellement, ce n'est pas du prix majoré à l'achat, mais il s'agit d'un problème de stock. Le stock s'est vide, la demande a augmenté.
Signalons que pendant ce temps de pénurie d'eau potable en Mbujimayi, la Régie des eaux et la SNEL ont besoin de carburant pour faire fonctionner leurs machines. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Du côté du Haut-Katanga, nous apprenons la tracasserie et la multiplicité des services fictifs dans le couloir des piétons dans la ville de Kasumbalesa. L'auditorat militaire a fait une descente dans ce couloir et a procédé à l'interpellation des hommes en uniforme, signalant que le couloir piétonnier permet le passage des petits commerçants congolais qui achètent la marchandise en Zambie. D'autres détails avec Paulin Munanga.
Une équipe constituée des éléments de l'auditorat militaire de Kasumbalesa, conduite par l'inspecteur judiciaire du parquet militaire Willy Malindo, s'est rendue au niveau du couloir piétonnier. D'après des sources locales, chaque jour, des centaines de petits commerçants font des va-et-vient entre la RDC et la Zambie pour acheter la marchandise. Et ils empruntent le couloir piétonnier. Cependant, ce couloir est truffé des services de l'État qui tracassent régulièrement les petits commerçants. Plusieurs agents de sécurité trouvés sur les lieux et qui n'étaient pas en possession d'affectation ni d'ordre de mission ont été appréhendés. Pour l'inspecteur judiciaire du parquet militaire de Kasumbalesa, il est question de mettre de l'ordre en ces lieux. Willy Malindo.
La population qui fréquente le couloir est souvent victime de la tracasserie, des conquistions, des extorsions. Il n'y a pas de semaine passée, il y a une délégation provinciale qui était venue. Il y a eu des grandes réunions présidées sur place localement à Kasumbalesa afin que l'auditorat puisse chercher à assainir, à mettre un peu de l'ordre, puisque on ne savait plus qui est censé devrer au couloir et qui n'a pas la qualité de venir travailler ici.
Willy Malindo ajoute que c'est une routine pour l'auditorat militaire de Kasumbalesa de faire des descentes au niveau du couloir piétonnier. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Et puis, le gouvernement congolais opte pour le respect des évaluations environnementales dans le secteur des hydrocarbures. C'est dans ce cadre que des experts du ministère des hydrocarbures et de l'environnement ont validé hier vendredi l'avant-projet d'arrêté interministériel en la matière. Ce document vise à aider le pays à atteindre les jalons de sa politique dans les différents secteurs d'activité liés à la REDD+. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
L'avant-projet de cet arrêté a été validé par des experts venus du secrétariat général aux hydrocarbures de l'Agence congolaise de l'environnement et du cabinet du ministère de l'environnement. Ces textes dotent le ministère des hydrocarbures et de l'environnement d'un cadre légal de collaboration en matière d'évaluation environnementale dans le secteur des hydrocarbures. Elvis Pemba, expert en hydrocarbures, est persuadé que cet arrêté interministériel apportera plus d'assurance et de sécurité aux opérateurs œuvrant dans ces secteurs.
Nous approchons un peu plus de la gestion harmonieuse des questions environnementales dans le secteur des hydrocarbures. Il ne sera plus question de démarches cavalières, ni du côté de l'environnement, ni du côté des hydrocarbures. Et donc, ça apporte plus d'assurance, plus de sécurité.
Dans le souci d'appuyer l'atteinte des jalons, le gouvernement congolais, en accord avec l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, souhaite que les ministères sectoriels concernés pilotent les processus pour atteindre les engagements politiques pris par la RDC. Dans ce cadre, le ministère des hydrocarbures, à travers son secrétariat général, a bénéficié d'un appui technique du programme des Nations Unies pour le développement et d'un accompagnement financier des CAFI dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie REDD+.
Vous le savez, nous nous approchons des festivités de fin de l'année, une période qui s'accompagne généralement de la montée de l'insécurité dans certains coins de la RDC. C'est le cas en Ituri. Ainsi, dans la ville de Bunia, la police est déjà à pied d'œuvre et dit avoir activé son plan de sécurisation des populations et de leurs biens durant la période des fêtes de fin d'année. Hier, le commandant de la police ville de Bunia a tenu une parade populaire au camp Pem dans le quartier Bankoko. Pour le colonel Abbé Limwangu, la sécurité a besoin de l'apport de tous. Il l'a dit au micro de Martial Kizabiamungu.
Il y a des mesures sécuritaires qui sont en train d'être prises pendant cette période de festivités, c'est-à-dire l'année 2025 s'est terminant et l'année 2026. Nous sommes venus aussi tenir cette parade devant la population du quartier Bakoko, en particulier celle de Bunia en général, pour assurer la population que les services de sécurité ont mis toutes les batteries en marche pour sécuriser nos populations pendant cette période. Et rassurer la population que qu'en cas de trouble à l'ordre, la police veillera à ce que la paix soit dans un bref. Et en cas d'attaque armée dans la ville de Bunia, les autorités militaires ont mis en œuvre des dispositifs tels que tout forte de troupes, tout ennemi de la paix, toute force ennemie intérieure ou extérieure vous en perturber la paix en province de l'Ituri, spécialement dans la ville de Bunia, trouvera force de sécurité sur son chemin. Nous sommes venus encore une fois devant le public, devant la population, renouveler cette confiance qui doit exister et demeurer entre nos populations, les services de sécurité, les forces de sécurité et les autorités politico-administratives.
Entre-temps, dans la ville de Beni, au Nord Kivu, 37 éléments des forces de l'ordre ont clôturé hier une formation sur la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Initiée par la police de la MONUSCO, UNPOL, cette formation visait aussi à renforcer les capacités des apprenants en matière de respect des droits humains. Le compte-rendu de Marc Marofimbo.
Pendant environ 4 mois, 35 policiers et 2 éléments des FARDC ont été formés par la police de la MONUSCO à la lutte contre les violences basées sur le genre, aux droits de l'homme, mais aussi aux techniques d'enquête, à la police de proximité, à la lutte contre le radicalisme ou encore à la gestion des scènes de crimes. Le commissaire supérieur principal Baudouin Bouyongo Bamba, participant, a remercié les organisateurs et a invité ses collègues à mettre en pratique les matières apprises.
J'ai demandé seulement aux lauréats de mettre en pratique ce qu'ils ont eu à prendre durant les 5 jours qui sont passés ensemble avec les différents formateurs, de mettre les droits humains en premier lieu et de prester conformément aux différentes lois de la République pour respecter les droits de l'homme. Et nous remercions franchement nos partenaires UNPOL MONUSCO pour cet encadrement, pour cette collaboration qui ne cesse de témoigner vis-à-vis du gouvernement congolais.
Signalons que cette formation vient s'ajouter à d'autres renforcements des capacités des éléments des forces de l'ordre congolaises par la police de la MONUSCO, dont la police et les FARDC. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Direction la province de l'Équateur. Promouvoir la collaboration et la convergence des actions menées entre les différentes parties prenantes pour la mise en œuvre effective de la réforme du plan d'aménagement du territoire en RDC. Tel est l'objectif principal des travaux de la table ronde multi-acteurs clôturée hier vendredi à Mbandaka. Les participants ont échangé sur la réforme de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Ils ont également réfléchi sur les stratégies à mettre en place pour la conservation et la pérennisation de cette loi. Explication à Skenzigbia Tayoro.
Au cours des travaux, le gouverneur de l'Équateur a souligné que sa province est écologique, ce qui permet à la province de contribuer à la lutte contre le changement climatique à cause de ses immenses forêts. Boloko Bolumbu Bobo invite tous les participants et bailleurs de fonds d'accompagner sa province dans le travail d'élaboration du plan provincial d'aménagement du territoire et des plans simples et locaux de gestion des forêts. Pour plus d'efficacité des activités menées sur le terrain, l'autorité provinciale a recommandé le travail en collaboration entre les ministères provinciaux de l'Intérieur, Affaires coutumières, Aménagement du territoire et Affaires foncières pour l'élaboration de la cartographie des villages en vue de prévenir les conflits intercommunautaires. Deux territoires, à savoir Ingende et Lukolela, ont déjà mis en œuvre leurs plans simples et locaux de gestion des espaces de forêt, précisément dans le secteur de Bokatola et Lusanganya. Au cours de ces assises de 3 jours, 2 lois ont été vulgarisées, notamment la loi sur l'aménagement du territoire et celle portant protection de peuples autochtones pygmées en RDC. Cette activité est organisée par l'ONG Groupe d'Action pour Sauver l'Homme et son environnement gâché en collaboration avec le gouvernement provincial de l'Équateur, initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, le tout sous le financement de Rainforest Norvège.
Merci de nous écouter à Kisangani. L'agence belge de coopération internationale ENABEL renforce la gouvernance et l'efficacité institutionnelle de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. C'est dans ce contexte qu'elle a remis hier un important lot de matériel informatique pour son bon fonctionnement. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de son projet d'appui institutionnel. D'autres précisions avec Jacques Moukonkole.
Cet équipement informatique est constitué notamment d'ordinateurs, d'imprimantes et d'accessoires. Selon Prosper Ntema, programme manager d'ENABEL, ce matériel va permettre de renforcer les capacités organisationnelles de cette institution, d'améliorer l'efficacité et la célérité dans le traitement des dossiers législatifs et administratifs. Autre avantage, favoriser une meilleure traçabilité et transparence des processus. Désormais, précise Prosper Ntema, l'Assemblée provinciale va travailler en réseau Wi-Fi, lui permettant de pouvoir se connecter grâce à son smartphone mis en place pour sa visibilité dans les réseaux. La redevabilité de l'Assemblée provinciale est donc garantie pour être connue par la population et le monde entier. Prosper Ntema insiste sur un bon usage de ces équipements afin de garantir leur durabilité et maximiser leur impact. Tout en remerciant ENABEL pour cet appui, le président de l'Assemblée provinciale, Mathéus Kangalondimo, le rassure de l'utilisation efficiente du matériel reçu. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le Centre d'appui au développement rural et à la sécurité alimentaire a organisé ce samedi une activité de sensibilisation sur le sextape au profit de la communauté de la zone de santé de Chikaji dans la commune de Nganza. Nous sommes à Kananga, au Kasaï central. Cette activité, organisée avec l'appui du programme alimentaire mondial PAM, rentre dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Détail avec André Katende.
Environ 70 personnes de la zone de santé de Chikaji, parmi eux hommes et femmes, ont pris part à cette activité de sensibilisation. D'après Dimi Moula, chargé des projets au Kadersa, plusieurs filles et femmes sont victimes de sextapes sur les réseaux sociaux au Kasaï central. Des vidéos et photos sont montées contre elles pour les escroquer ou porter atteinte à leur dignité ainsi que celle de leur famille. Il indique que cela affecte le mental des victimes et certaines parviennent même à se suicider. L'objectif de cette sensibilisation était d'apprendre à ceux qui étaient présents sur comment dénoncer les cas ou le menace de sextape, mais aussi l'attitude à prendre face à une victime. La sensibilisation était bénéfique pour le participant. Élisée Tufouaka, l'une d'eux, fait savoir qu'elle a appris à dénoncer les cas de sextape via le numéro vert 49 11 11 ou auprès des autorités, mais également comment prodiguer des conseils aux victimes. Elle a aussi promis de sensibiliser d'autres membres de la communauté sur ce phénomène. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Plus de 360 morts en Asie du Sud-Est après les pluies torrentielles. En Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie, les pluies torrentielles de cette année ont provoqué des inondations meurtrières. Plus de 360 personnes ont perdu la vie selon les derniers bilans des autorités locales publiés ce samedi 29 novembre. Réélu ou écarté sous la pression du gouvernement gouvernement camerounais, voulais-je dire, 3 ans après son arrivée à la tête de la FECAFOOT, Samuel Eto'o brigue un nouveau mandat dans un climat explosif, alors que l'Assemblée générale élective est maintenue. Le ministère des Sports demande son annulation et dénonce un processus irrégulier ravivant la guerre ouverte entre pouvoir politique et fédération au Cameroun.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Saïdi Massomo. Il est enseignant des langues au département des français langues africaines de l'Institut supérieur pédagogique ISP Kindu. Il donne ici son point de vue par rapport à cette nouveauté dans la passation de l'examen d'état dès 2026. En effet, dans la partie orale, l'anglais rejoint le français selon la décision du ministère de l'Éducation nationale. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Saïdi Guigui Massolo, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Introduction de l'anglais dans l'oral à l'examen d'état, est-ce une innovation ou non?
Madame Florence, pour la nouvelle génération, c'est une innovation. Mais pour les anciens, ce n'est pas une innovation, puisque ce système a existé. C'est à un certain moment, la hiérarchie a pris la décision de mettre l'oral de côté et de prendre l'écrit. Là, moi-même, je suis témoin. En 1973, quand nous sommes passés par l'examen d'état ici à l'ENANO, c'était de l'oralité. Pour l'anglais, c'était l'oral. Et je connais même la dame de CAM qui m'avait interrogé, une dame américaine. Et les anciens de l'ENANO vont se rappeler de Eddie Vancourt qui nous interrogeait oralement.
Qui doivent faire les écoles, qui doivent exécuter alors cette mesure?
Comme la pratique n'était plus de mise, ils doivent prendre des précautions, des stratégies appropriées pour permettre d'améliorer leurs enseignements au profit de ces élèves-là qui doivent apprendre l'anglais et mettre un peu un accent particulier sur des exercices qui permettent à l'apprenant de parler beaucoup. Et quand l'apprenant parle, il peut parler même avec des fautes, quitte à l'enseignant de corriger et d'encourager. Puisque si on se met à décourager quand quelqu'un parle, il risque d'être froissé et il ne va plus parler. L'anglais, c'est comme toute autre langue qu'on apprend. Alors, pour nous, c'est du bien.
Alors, M. Guigui, je crois que cette innovation touche et interpelle aussi les écoles de formateurs, des professeurs, par exemple, les ISP, c'est-à-dire Institut supérieur pédagogique, qui organisent l'anglais aussi.
Oui, Madame Florence. Ici, nous parlons en aval. Mais en amont, il faudra que ceux qui doivent donner des leçons d'anglais doivent être outillés par ces institutions. Par exemple, les institutions supérieures pédagogiques qui organisent le département, pour le moment, on appelle mention d'anglais. Ce département doit prendre des précautions, envisager d'autres stratégies qui peuvent permettre à ceux qui sont formés au niveau des ISP, tout d'abord, il y a deux facteurs, d'être compétents et d'être performants, afin qu'ils soient capables d'enseigner ceux qui quittent les ISP pour être compétents et performants au niveau des écoles secondaires. Alors comme ça, ça sera une donne qui va permettre aux autres de bien parler, de maîtriser et l'oral et un peu d'écrit.
Vous faites allusion aux enseignants, aux professeurs d'anglais, alors quelle attitude adopter avant, pendant les cours et aussi aux évaluations.
Là, avant de vous parler de l'attitude à adopter, je vais condamner l'attitude caporaliste. Madame Florence, qu'est-ce qu'on appelle l'attitude caporaliste? C'est arrivé même au cours des mathématiques, les apprenants ne comprennent plus. La première phrase d'un professeur, il va dire les mathématiques sont difficiles. Je pense que vous n'allez pas comprendre. On prédispose l'apprenant à ne pas happer cette proie. Alors, l'attitude, ça doit être une attitude d'un engouement, une attitude qui permet aux apprenants d'aimer tout d'abord l'anglais, d'aimer l'enseignant, et ils doivent partir des notions qui sont élémentaires, du simple au composé, pas commencer à faire de n'importe comment, qui peuvent rendre ces apprenants-là un peu bizarres pour ne pas accepter de l'anglais. Or, l'anglais est incontournable dans ce monde.
Par rapport à l'identité de l'homme congolais, deux langues font concurrence. Quel en serait alors l'avenir de nos langues?
Je vous dirais, madame, qu'il y a la langue française, adoptée par notre législateur pour être la langue de communication. Il s'ajoute l'anglais. Mais nous avons aussi l'identité. Qui dit apprendre le français,
oui,
pour la communication internationale, pour les recherches, l'anglais, l'année de même pour les communications internationales et tout ça. Mais de toutes les façons, nous devons rester aussi authentiques. Nos langues ne doivent pas être rejetées ou pour dire ce sont des bassins, comme ça se dit. Non, nos langues restent langues, mais même s'il y a concurrence, on s'identifie par la langue, c'est ça. La communauté est identifiée par la langue. Maîtriser votre langue, c'est bien. C'est ce qu'on parle. La langue première, vous allez à la deuxième langue et troisième langue. Quand vous apprenez, par exemple, ici chez nous, vous connaissez le swahili. Vous pouvez parler l'anglais, vous pouvez parler le français. Vous connaissez les chiluba, par exemple. Dire que quand on connaît l'anglais, on connaît le français, il faudra rejeter nos langues. Là, nous risquons de ne pas avoir l'identité. Et on est congolais, on doit s'identifier par une langue et ensuite on va vers d'autres langues, d'autres horizons.
Un mot à tous les apprenants.
Aux apprenants de comprendre que c'est ça, l'évolution nous exige à changer la donne, à ne pas rester statico. L'anglais n'est pas difficile, il suffit seulement de s'y mettre et d'avoir cet amour-là. Ils vont parler et ça ne sera pas une baguette magique. Nous commençons cette année, deuxième année, vous verrez, à l'espace de 5 ans, on verra ceux qui parlent couramment.
Monsieur Saïdi Guigui Massolo, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, Madame Florence.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, Billy Landry Betou à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.